Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Bonjour chers auditeurs et bonjour à mon invité. Mon invité aujourd'hui, c'est Alain Debert. Bonjour. Bonjour Alain.
Bonjour madame.
Alors, on va d'abord vous présenter, car votre carte de visite est impressionnante. Hein. Je ne vais pas tout dire, j'oublierai certainement des choses, vous pourrez rectifier. Vous êtes donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, docteur d'État en histoire, et vous avez enseigné à la Sorbonne. Vous êtes spécialiste d'histoire militaire, et la semaine précédente, nous avions eu un entretien avec Yann Le Boeck, qui a fait la préface de votre livre, et qui lui aussi est spécialiste d'histoire militaire. Vous êtes ancien officier, et rédacteur au service historique de l'armée de terre et professeur d'histoire militaire aux écoles de Saint-Cyr-Couët-Quidan. Donc, vous savez de quoi vous parlez, d'autant que l'archéologie est aussi une pratique qui vous est familière. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important ?
Vous n'avez rien oublié, simplement je me permets de faire une petite correction. Je n'ai jamais été enseignant dans un établissement civil, donc je n'ai pas été professeur à la Sorbonne.
À Sorbonne, d'accord. Donc,
voilà.
Vous avez enseigné donc à Saint-Cyr, principalement.
Oui, j'ai enseigné à Saint-Cyr et bon, j'ai eu plusieurs missions également au cours de ma carrière d'officier et de haut fonctionnaire, parce que ça, vous ne l'avez pas dit,
oui,
mais
oui,
donc j'ai quitté l'armée d'active après un peu plus de 16 années d'activité au sein de l'institution pour rejoindre la haute fonction publique et le corps des administrateurs civils et le corps préfectoral. Voilà. J'en ai terminé. Hein.
Oui, bah, c'est un beau parcours et ce n'est pas fini puisque vous continuez d'être dans la nouveauté sans arrêt, la nouveauté littéraire puisque vous publiez beaucoup de livres. On va en parler du petit dernier, mais je sais qu'il y en a d'autres en préparation. Et vous êtes sans cesse à l'affût de tout ce qui pourrait renouveler notre connaissance de l'Antiquité. Alors ma question rituelle, mais elle me passionne toujours, c'est comment êtes-vous venu à l'Antiquité ? Est-ce que ça a été de tout temps un intérêt ou bien si c'est au cours de votre carrière d'officier ?
Alors, c'est une question intéressante et à laquelle il est assez difficile de répondre, enfin en tout cas brièvement, parce qu'en fait, mon intérêt pour les civilisations antiques remonte à mon enfance, donc je devais avoir aux alentours de 7 ans. Simplement, dans ma famille, on n'envisageait pas du tout, évidemment, que je puisse effectuer une carrière à l'université ou dans le monde, ou le CNRS également, par exemple. Et donc, par conséquent, j'ai suivi les pas de mes ancêtres et je suis rentré dans une école d'officier et j'ai donc fait une carrière, comme vous le savez. Voilà. Ceci dit, j'ai commencé à travailler sérieusement toutes ces questions d'histoire militaire antique dès 1967.
Oui, ça fait un petit moment.
Ça fait un petit moment. Alors, il y a une autre raison également, c'est que donc j'avais tissé un réseau à l'international, donc avec des enseignants du monde universitaire ou des archéologues de différents pays, jusque y compris aux Amériques. Et donc, ceux-ci m'avaient dit, écoute, quand tu prendras ta retraite, c'est quand même bien que tu prennes un peu de temps pour nous dire tout ce que tu sais. L'intérêt de mes chercheurs était de mes collègues chercheurs était le suivant. Ils pensaient que j'avais une lecture particulière des événements et des faits qu'on pouvait constater soit à partir des sources littéraires, soit à partir de l'archéologie, et ils souhaitaient connaître exactement quelle lecture personnellement j'en faisais, parce que j'ai toujours eu un peu le sentiment que j'étais bien seul dans ce domaine-là.
Et oui, parce qu'il y avait beaucoup de clichés, on va dire, et dans vos livres, effectivement, vous attachez avec une précision, on pourrait dire, toute militaire et objective, à voir ben, les forces en présence avec Gergovy, on en parlera tout à l'heure, à voir les choses de la manière la plus objective possible.
Oui, en effet, vous avez tout à fait raison. Et en fait, bon, je me suis jusqu'à présent appliqué donc à exposer, à reprendre les faits et à les étudier à l'aune des découvertes les plus récentes, en mettant évidemment en exergue ce que j'avais fait comme expérience. Puisque effectivement j'ai été à la fois dans des troupes de mêlée, donc je sais ce que c'est que le combat sur le terrain, et d'autre part j'ai été également en état-major. Donc je peux me projeter à la fois sur le terrain et en même temps sur les arrières dans un état-major pour expliquer comment les choses se passaient. Voilà. Alors mes connaissances ne se limitent pas au monde antique, puisque comme vous l'avez souligné dans l'introduction, je suis historien militaire, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur toutes les époques, y compris sur tous les théâtres d'opération, que ce soit des théâtres d'opération en Europe, mais également au Moyen-Orient ou dans d'autres parties du monde, de la planète. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut à partir de là faire de l'histoire comparée.
Oui, bien
avec
sûr.
Évidemment toutes les réserves qui s'imposent, c'est évident.
Et du coup, ça nous amène directement au livre dont nous allons parler aujourd'hui, La bataille de Gergovy. Je signale que bataille est entre guillemets, on va y revenir, et que justement ce mot bataille figure, ça m'a beaucoup intéressée dans ce livre très très documenté. Il faut quand même qu'on précise que c'est aux éditions Lem Edit. Il y a un glossaire vraiment précis, est vraiment nouveau, puisque le mot « bataille » qui semblerait ne pas devoir être défini, l'est ici, je lis ce que vous avez écrit, « Événement historique par excellence, la bataille est constituée par la rencontre des forces ennemies qui s'opposent par les armes. Elle se déroule généralement en terrain libre. C'est l'aboutissement d'une campagne militaire. » Et ce qui vient m'intéresse
oui,
particulièrement, comme au théâtre, elle est caractérisée par la règle des trois unités, de lieu, espace précis, de temps, un jour, et d'action, concentration des forces ennemies exécutant une manœuvre précise pour contrer celle de l'adversaire. Alors je trouve que c'est une définition originale et pertinente.
Oh, elle n'a rien d'original, parce qu'en fait, je ne fais que reproduire ce que j'ai appris et ce que j'ai ensuite été amené à apprendre à mes élèves. Voilà, donc c'est la définition que nous employons dans le monde militaire.
Alors, on va s'y propulser dans ce monde militaire du printemps 52 avant Jésus-Christ. Je signale à nos auditeurs que nous ne sommes pas avec ces irréductibles Gaulois et ce village d'une Gaule inoccupée, mais nous sommes sur des sites fort connus. Vous avez beaucoup écrit sur des batailles de l'Antiquité ou sur des chefs de l'Antiquité, sur Vercingétorix. Je sais que vous préparez aussi, parce que vous avez un blog sur lequel vous vous exprimez. C'est ça, sur Facebook, et où vous annoncez pour 2026 un gros ouvrage sur les guerres gauloises, que vous avez en préparation quelque chose sur le siège d'Alésia. Donc bref, nous serons certainement amenés à parler encore de tous ces livres. Mais là, aujourd'hui, donc la bataille de Gergovy, pourquoi dans ce titre, le mot « bataille » est-il entre guillemets ?
Alors ça, c'est un choix de l'éditeur auquel je ne peux pas vous répondre, parce qu'en fait, pour moi, ce n'est pas une bataille, c'est un siège.
Oui. Donc on va y revenir, effectivement. Donc on revient à la définition que j'ai lue tout à l'heure dans votre glossaire. Effectivement, c'est des nuances importantes. Et j'aimerais vous demander maintenant, pourquoi, alors que Gergovy, depuis qu'on est petit, on en a entendu parler, comme Alésia bien sûr, pourquoi vous pensez, et vous le démontrez du reste dans le livre, qu'il était utile de faire un livre aujourd'hui sur Gergovy ?
Alors, c'est une demande de M. Georges Gervais, donc le gérant de la
Oui.
société Les Médites, qui, depuis de nombreuses années, m'avait incité donc à écrire un livre sur le siège de Gergovie, puisque sa maison d'édition se trouve à quelques kilomètres. Et effectivement, c'est un événement historique qui a fait couler beaucoup d'encre, parce que certains auteurs se sont plu à contester l'identification du site du
Eh
plateau de
oui.
Gergoil, voilà, avec la Gergovie de César et de Vercingétorix. Donc, effectivement, j'ai répondu à son invitation et j'ai donc rédigé ce livre en exposant les tenants et les aboutissants de toute cette affaire.
Et alors donc vous expliquez que il n'y a pas d'épigraphie, il y a de la numismatique, beaucoup d'archéologie et beaucoup de littérature, mais faut-il se méfier un petit peu des sources? Par exemple, vous indiquez bien que Plutarque, qui est une source tardive, donc il n'était pas témoin des événements, et qu'il faut donc essayer d'approcher au plus près des données, des chiffres, des données archéologiques.
Eh bien, en fait, oui, alors on est évidemment tributaire pour l'essentiel du récit que donne César de ce siège, hein, qui lui a coûté quand même l'équivalent d'une légion, donc près de 20% de son effectif à cette époque-là. Il y avait d'autres récits qui ont été, alors je ne dis pas perdus, parce qu'en fait, j'ai appris que l'empereur Auguste avait
Oui.
donné l'ordre, donc, bon, c'était un régime autoritaire, hein, que l'Empire. Donc il avait demandé à ce que l'on fasse disparaître tous les textes qui allaient à l'encontre de son père adoptif. Donc il y a eu donc une espèce de chasse aux sorcières et il n'y a pas grand-chose qui a échappé évidemment. Il y a quelques éléments qu'on retrouve dans un texte tardif de Dion Cassius. Mais malheureusement, bon, on le sait, il y avait d'autres sources mais qui ont disparu et qui de toute façon contestaient ce que César pouvait dire. Alors ça, on le sait par différents, enfin, dans mon livre d'ailleurs, j'en parle et
Oui.
j'en parle aussi dans les livres suivants, qui vont paraître le premier le 21 avril et l'autre l'année prochaine. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On doit s'incliner devant les sources, on ne peut pas non plus faire dire à l'histoire ce qu'elle ne peut pas dire puisque les documents manquent.
Exactement. Donc, prudence, et c'est effectivement ce que vous affichez tout le temps dans ce livre dont on va reparler dans la deuxième partie, plus précisément dans la deuxième partie de l'émission. Un livre, je l'ai dit, documenté. Il y a beaucoup d'illustrations, une bibliographie très abondante, des schémas et ce glossaire dont j'ai parlé tout à l'heure, et aussi une construction du livre dont il va falloir parler dans la deuxième partie, je disais, de l'émission. Place un petit peu de musique, un petit peu originale pour l'émission Antiquissimo. Je suis allée chercher le chant de la 61e promotion de l'école militaire interarmes, promotion Gergovie. Donc ça allait bien avec l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve dans quelques minutes.
Ce soir, le vent de l'histoire porte aux jeunes officiers l'audace de ses guerriers. Ils se sont couverts de gloire, bénis par les dieux, combattant sous les cieux. Des peuples unis. Un jour se
Alors, c'est la deuxième partie d'Antiquissimo, après ce chant émouvant, et ses paroles tout aussi émouvantes aussi. Et nous parlons avec Alain Débert dans Antiquissimo de la bataille de Gergovie et de ce que vous appelez, un moment du livre, l'affaire gergovienne. Effectivement, on en a déjà évoqué les dessous, des polémiques qui sont maintenant réglées sur le site, et puis cette manière de considérer les chefs, d'un côté César et de l'autre Vercingétorix. Je ne sais pas dans quel ordre il faut dire. Alors, votre livre est extrêmement bien construit. Il y a d'abord un prolégomène qui instaure toutes les règles et les raisons de ce livre. Ensuite, vous parlez des forces en présence avec beaucoup d'illustrations et c'est un chapitre le plus long du livre, très très important. Alors, ces forces en présence, on va en dire un petit mot. Je vais préciser quand même que pour chaque chapitre, et ça aussi c'est appréciable, il y a une conclusion très nette au bout de la démonstration que vous faites, et une conclusion tout à fait nette. Alors, les forces en présence, j'aurais envie de demander, est-ce que César avait l'avantage au départ? Est-ce qu'on a une manière d'expliquer pourquoi ça s'est passé à Gergovie et non pas dans le fief de la concentration gauloise, parce que le peuple gaulois, ça n'a pas trop de sens, hein, mais c'est une mosaïque de peuples. Pourquoi ça s'est passé à Gergovie?
Alors, pour répondre à cette question, c'est très simple, c'est un piège que Vercingétorix a tendu à César. César voulait en découdre avec Vercingétorix après les événements dramatiques qui avaient donc marqué le début de l'année 52 avec ce siège terrible d'Avaricum, c'est la ville de Bourges à l'heure actuelle.
Oui.
Donc, il a conçu une stratégie qui visait à tirer César à cet endroit. Il aurait pu choisir un autre endroit, bien évidemment, oui. Mais il le connaissait bien, puisque on sait que Vercingétorix est né à Gergovie et non pas ailleurs, comme certains auteurs tendent à le laisser croire, et ce qui est faux. Et donc, il connaissait parfaitement ce lieu. Étant enfant avec ses jeunes camarades, il a dû parcourir le plateau et ses abords donc pendant des heures et des heures. Hein. Et donc, il en connaissait les moindres recoins. Donc, il connaissait les possibilités, alors cette fois-ci non pas stratégiques, mais tactiques de la position. Et il a appliqué à César ce qu'on appelle la stratégie de l'enclume et du marteau.
Oui.
C'est-à-dire que l'enclume, eh bien, c'est l'oppidum sur laquelle Vercingétorix va installer son armée après le siège de Bourges. Et le marteau, eh bien, ce sera évidemment les manœuvres qu'il va réaliser autour en tapant sur l'armée romaine qui est au pied.
Une tactique tellement impressionnante que César s'en servira après. Il aura compris la leçon. Mais là, c'était prodigieusement ingénieux, effectivement.
Oui, alors, difficile de dire comment cette idée était venue à l'esprit de Vercingétorix. Mais enfin, il ne faut pas oublier qu'il avait autour de lui, dans son état-major, un certain nombre de chefs plus anciens et qui avaient participé à de nombreuses guerres, soit des guerres intérieures entre peuples gaulois, soit contre l'armée romaine depuis 58 avant Jésus-Christ. Voilà, donc de toute façon, et on sait qu'il avait cet état-major, puisque tous les matins, justement, il convoquait les chefs qui étaient restés avec leurs unités en contrebas de l'oppidum, dans un camp qu'il avait fait aménager, pour venir discuter avec lui des affaires de la journée. Donc c'est quelque chose déjà de bien, de solidement construit, de bien conçu. Et César n'a pas vu venir le coup.
Et oui, parce que ça, il faut quand même si vous l'avez précisé tout à l'heure, on a tout fait pour le faire oublier, c'était une sacrée défaite pour César qui a perdu énormément d'hommes.
Hein. Absolument. Alors, on le sait aussi par l'archéologie, on voit très bien que tout autour, il y a eu des combats dont César ne parle pas, avec probablement des pertes importantes. Et ce qui m'a fait proposer comme hypothèse à la fin de mon livre, justement, c'est qu'en fait, cette bataille finale que César nous relate avec beaucoup de détails est peut-être purement fictive. Il a peut-être simplement reconstruit l'histoire et les événements en intégrant des faits qui se sont déroulés au cours environ du mois qu'a duré le siège, puisque c'est à peu près l'ordre de grandeur auquel on arrive aujourd'hui. Donc pendant 4 à 5 semaines, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Mais donc en fait, c'est une construction, si vous voulez, purement intellectuelle, mais les faits, je doute fortement que ça soit déroulé comme ça.
Alors justement, à la
En tout
fin,
cas, ce qui est certain,
je vous en
de
prie.
toute manière, il a commis une erreur, et là, c'est là qu'on voit qu'il n'était pas si bon chef militaire que ça, parce que on n'attaque jamais en montant. Hein, toutes les armées, dans toute l'histoire, que ce soit chez nous, il y a des exemples remarquables au cours de la Première Guerre mondiale. C'est par exemple les tentatives des Alliés de conquérir la côte 107 en Champagne, qui a provoqué évidemment des pertes absolument abyssales. Et puis, vous avez, au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'assaut de la colline de Monte Cassino, sur lequel il y avait non pas un oppidum, mais un important monastère, et qui a entraîné des pertes considérables, non seulement du côté des Allemands, mais également du côté français, puisque ce sont les Français qui ont monté l'assaut.
Et oui, bien sûr qu'on peut analyser ça à l'aune aussi du présent ou du passé assez proche. Alors pour avancer dans votre livre, donc après ces forces en présence et votre conclusion, je la lis pas en entier parce que nous n'avons pas trop le temps, mais la conclusion à la page 84, comme on peut le voir, les deux armées présentaient chacune des forces et des faiblesses, et à Gergovie, ce fut incontestablement celle de Vercingétorix qui eut le dessus. Car l'exercitus, césarien, n'obtint aucun succès tactique en dépit des efforts déployés. Et vous précisez dans le paragraphe qui suit que rien n'était dû au hasard et que Vercingétorix, effectivement, avait bien calculé, pour parler familièrement, son coup. Alors, dans le chapitre suivant, il est question de la bataille, toujours entre guillemets, puisque vous avez précisé que c'est plus un siège qu'une bataille, et que donc Vercingétorix a choisi de la mener dans ce site, ce plateau de Gergovie, et non pas à Nessos, la capitale arverne, pour les raisons que vous avez indiquées tout à l'heure. Et puis, dans le chapitre suivant, il est question des conséquences, et vous indiquez, alors on ne va pas rentrer dans les détails sur le nombre de morts impressionnants qu'on a évoqué un petit peu tout à l'heure, mais vous indiquez des nouveaux indices sur les dates. Parce que l'archéologie, vous avez expliqué qu'on trouve beaucoup de traces de combats, nous permet d'avancer là-dessus.
Ah oui, tout à fait. Parce que bon, plusieurs chercheurs français, étrangers, se sont un petit peu hasardés à proposer une chronologie qui, en général, d'ailleurs, est très tardive. Et en fait, les archéologues se sont aperçus que ce n'était pas du tout le cas et qu'en réalité, le siège avait eu lieu au printemps, plutôt au mois de mai, mais éventuellement jusqu'au début du mois de juin, mais en tout cas, en aucun cas, au mois de juillet ou encore au mois d'août. Voilà. Donc, ça, c'est, je trouve, une découverte très importante qui a été réalisée par des membres de l'équipe de Monsieur Yann de Berge, qui était un archéologue de l'Institut national de la recherche archéologie préventive. Et c'est une avancée considérable parce que grâce aux analyses des restes végétaux qu'il a pu trouver donc à différents endroits du grand camp de César, on peut donc avancer une date qui est à peu près sûre. Voilà, je trouve que c'est très intéressant parce qu'évidemment, le décalage entre les dates proposées par l'équipe de Deberge et ensuite celle des archéologues que je citais tout à l'heure, bah, permettent de resituer un petit peu différemment le siège d'Alésia, par exemple, et puis tous les événements qui vont s'intercaler entre Gergovie et Alésia.
Et oui, donc l'archéologie sans arrêt, parfois une petite trace infime dans un terrain quelconque, nous avertit que là, il y a eu en effet des combats, vous le précisez dans votre livre.
Voilà, alors ce qui est intéressant aussi, c'est que les analyses réalisées par mes collègues à partir de restes de céréales Ils ont pu déterminer que ces céréales étaient corrompues et que les légionnaires et les auxiliaires étaient probablement malades. Donc, ce qui explique aussi peut-être, parce que quand un soldat n'est pas en possession de tous ses moyens, ben forcément, il ne peut pas, combattre correctement. Et c'est le cas, puisque l'ergot du seigle, on le sait, peut même entraîner la mort, hein, chez les gens qui le consomment. Alors, quelle quantité ont-ils consommé, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ne devaient pas être en forme lors de leurs opérations.
Et oui, ça, c'est une donnée qu'on n'avait pas du tout avant, hein.
Absolument. Alors, ceci dit, attention, je ne sais pas quel était l'état de l'armée de Vercingétorix. Déjà, premièrement, les auteurs ont tendance à laisser croire qu'il avait déjà 80 000 fantassins et 15 000 cavaliers. Je n'en suis pas sûr du tout, parce qu'en fait, oui, il avait peut-être cet effectif au moment du siège d'Alésia, mais je ne pense pas que cet effectif avait été déjà réuni lors du siège de Gergovie.
Et oui, donc tout ça appelle à pas mal de prudence et peut-être faudra-t-il avoir encore de nombreuses découvertes, mais il est peut-être temps maintenant de parler de tous les projets dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes autour de ce siège de Gergovie, de tout ce qui se prépare.
Écoutez, moi personnellement, je n'ai pas d'informations récentes à vous donner. Je sais que normalement, Yann de Berge va continuer ses travaux. Il y en a probablement pour des années, hein, parce que bon, il y a aussi un autre oppidum qui se trouve juste à côté de Gergovie, à moins de 10 km de distance. Donc, ça permettra sans doute de savoir un petit peu mieux ce qui s'est passé, mais il est possible aussi qu'il y ait eu d'autres événements militaires après le siège de 52, mais pour lesquels on n'a pas de texte littéraire. Par exemple, il y a des choses très intéressantes. Les archéologues de l'INRAP ont découvert aussi des fosses, une bonne centaine d'après ce qu'on m'a dit, qui contenaient des chevaux. Pour les unes, pour les autres, des cadavres, des restes de squelettes, enfin des squelettes humains. Et dans certains cas, il y a les deux à la fois, et on ne sait pas comment les rattacher, si vous voulez, à ces événements. Est-ce que c'est lié au siège de Gergovie? Est-ce que c'est antérieur? Est-ce que c'est postérieur? Ça, personne n'est capable aujourd'hui de le dire, parce que les chevaux, on a ôté avant des enterrés, le harnachement des chevaux, donc on ne peut pas
Oui.
dater l'événement. Et puis les cadavres sont, suivant d'ailleurs des habitudes de toutes les armées, quand il y a des morts sur le terrain, on les déshabille
Oui,
complètement,
oui,
ils
oui.
sont nus, et on les jette dans une fosse, donc avec plus ou moins de soin. Donc je sais que mes collègues n'ont pas trouvé d'éléments qui permettent de dater avec certitude ces fosses qui peuvent appartenir à des époques différentes. Alors,
Voilà. Je suis
certains
obligée.
archéologues. Pardon.
Je suis obligée de vous interrompre parce que nous sommes au terme de l'émission et
Ah,
je ne
bon.
doute pas que ça passait très vite, n'est-ce pas? Je ne doute pas que les auditeurs se précipiteront sur votre livre La bataille de Gergovie pour en apprendre beaucoup plus et savoir que se prépare donc dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes un des grands sites pour exploiter toutes ces nouvelles données archéologiques. Je vous remercie beaucoup, Alain Débert, et je vous dis peut-être à bientôt pour le nouveau livre.
Je vous remercie, madame.
Au revoir.
Au revoir, madame.